rallye citoyen autour de l'engagement à Aubenas. Organisé par la délégation militaire départementale de l'Ardèche, cet événement a accueilli 90 jeunes des collèges de Jastres et Roca. Voici la troisième partie du reportage à l'atelier de la préfecture de l'Ardèche. Je suis avec le lieutenant-colonel Haït Chalal pour une petite présentation de ce rallye citoyen.
Donc l'objectif de la journée, c'est que les jeunes soient sensibilisés donc, aux valeurs républicaines et au fonctionnement, donc, d'où la présence donc, de tous les corps, donc les corps de la sécurité intérieure, de la sécurité civile.
Les valeurs que vous voulez mettre en avant pendant ce stage d'une journée, quelles sont-elles ?
Donc ce sont la prise de conscience du vivre ensemble, de la cohésion nationale et l'importance de s'engager voilà, pour les autres et s'engager éventuellement au service de la France. Alors, dans la constitution des groupes, on a voulu mixer justement les collèges et on a tenu également à mixer donc avec les filles et les garçons. Mais filles et garçons sont sur le même plan d'égalité, il n'y a aucun état d'âme là-dessus. Voilà.
Je suis heureux de vous accueillir sur ce site donc de l'espace Lienhardt. Je voudrais vous remercier, vous les collégiens, pour déjà vous être portés volontaires pour participer à cette journée citoyenne où donc seront mises en avant les valeurs de la République, l'idée d'engagement et surtout de cohésion. Voilà. Donc c'est une occasion unique que soient réunis donc tous les acteurs des forces de sécurité intérieure, de la sécurité civile, des représentants de l'État, de la fonction publique d'État et territoriale, des représentants de la mémoire. Donc profitez-en, soyez curieux, posez des questions.
Attention pour les couleurs.
C'est
envoyez.
Pour l'ensemble de commandement, repos. Pour les petits jeunes, on peut remettre les mains dans les fouilles si vous voulez, c'est que les consignes. J'ai pas besoin de micro parce que je parle fort. Vous vous êtes rendu compte pendant la présentation du rallye.
Je veux vous dire que dans le contexte que l'on connaît, vous faites partie sans doute d'une des générations pour laquelle l'engagement va être le plus important, le plus de sens. Nous avons de la chance de vous avoir, d'avoir une jeune génération engagée, et c'est important que votre participation ici se voit, se sache, pour qu'elle puisse faire des émules et convaincre l'ensemble de vos camarades pour que vous puissiez vous engager pour la France, comme le font tous ceux qui sont autour de vous et qui ont travaillé sur une douzaine d'ateliers pour vous donner un peu le goût de ce que représente l'engagement au service des autres, au service de l'État, aujourd'hui dans notre pays. Merci à toutes et tous, bonne journée, dépassez-vous et surtout, vous l'avez compris, engagez-vous.
Merci à tous, à la disposition des chefs d'atelier pour récupérer les groupes. Merci.
De la préfecture. Elle représente l'État et le gouvernement dans les départements. Il y a un préfet dans tous les départements de France et ils sont accompagnés par des sous-préfets. Il y a un sous-préfet à L'Argentière, un sous-préfet à Tournon qui sont au plus près des habitants, des élus et des forces du territoire. Les préfets passent en moyenne 2 ans dans les départements où ils sont nommés. Ils ne peuvent pas être en même temps des élus locaux ou des parlementaires et pendant les campagnes électorales, ils ne doivent pas laisser supposer une préférence pour un candidat. Le préfet, surtout, il veille à l'application de la loi de la même manière partout dans tous les départements de France. Il a plusieurs missions, plusieurs rôles. Il symbolise en permanence l'État et représente le gouvernement. Il a pour rôle d'aménager le territoire, de garantir l'exercice des libertés des citoyens, d'organiser les élections aussi, de garantir la démocratie, que les élections se passent dans des bonnes conditions. Et il a un rôle important dans la vie économique et sociale du département. Et aussi, et c'est l'objet de la présentation qu'on va vous faire après, il a le rôle de garantir l'ordre public et la sécurité des habitants dans le département. quel exemple vous auriez éventuellement de moments où il doit pouvoir garantir la sécurité des habitants? Est-ce que vous savez que si jamais il y a une crise dans le département, il a pour rôle de piloter cette crise pour garantir la sécurité des habitants? Non, vous ne le saviez pas? Donc c'est l'objet de la présentation qu'on va vous faire juste après. On a imaginé un scénario, c'est le service de Didier qui s'occupe de ça. Scénario de crise en fait, il y a un événement majeur qui s'est produit dans le département de l'Ardèche. Et quel est le rôle de chacun des personnes impliquées et surtout de la préfète dans la gestion de cette crise? On va s'approcher, on va vous montrer.
Alors ici, on a mis sur ce plateau l'organisation des secours dans le cadre d'un grave accident. Donc là, on va mettre en place cette organisation qui permet à chacun de pouvoir être bien dans son rôle et que les intervenants ils se marchent pas sur les pieds. Que chacun soit bien là pour être dans son rôle. Donc quand il se passe un accident comme ça, en premier, il y a un témoin ou une des victimes qui va déclencher un appel. Donc est-ce que vous connaissez les numéros d'appel d'urgence?
18.
Le 18, ouais, très bien. Le 15, oui. Ouais. Le 17 aussi.
Et il y a un numéro un peu universel avec les portables qu'on utilise aussi. Mais ils se rejoignent tous quasiment.
49, tout ça pour femmes battues, tout ça.
Alors ça, c'est des numéros, effectivement, mais pas pour appeler les secours dans une catastrophe ou un accident que l'on vient d'observer. Non, c'est le 112. Voilà, 112 avec le téléphone.
Ça, c'est rare.
Alors, le 112, c'est comme le 18 ou le 15. Donc c'est un numéro qui peut être appelé avec les portables. Parce que si vous faites le 15 avec un portable, ça ne va pas marcher. Alors que si vous faites le 112, ça va fonctionner. Et vous aurez soit les pompiers, soit le SAMU. Donc en Ardèche, ce qui est bien, c'est qu'ils sont juste à côté. Et comme ça, ils peuvent se tenir informés très rapidement quand il y a un appel qui arrive chez eux. Et le 17, ça permet de joindre soit la police, soit la gendarmerie. Donc là, on imagine qu'il y a un témoin qui a fait le 112. Donc l'appel a été passé aux pompiers. Et les pompiers, ils décident d'envoyer sur place des véhicules pour venir secourir les victimes. En même temps, si ça n'a pas été fait par les témoins, les pompiers s'assurent que les gendarmes ou les policiers ont aussi l'information. Et les policiers, ici, ils viennent sécuriser le lieu pour éviter qu'il y ait des personnes qui viennent faire un suraccident.
Ils peuvent mettre aussi en place des déviations pour que si là le carrefour n'est plus du tout praticable, dire aux autres automobilistes comment contourner et comment circuler ailleurs que sur cette route.
L'intérêt aussi, c'est de réserver les routes pour venir sur le lieu de l'accident pour les services de secours, pour pouvoir venir secourir les victimes et éventuellement les amener à l'hôpital. Donc là, dans ce cas de figure, on a les pompiers qui mettent en place, au plus près de l'accident, ils trient un peu les victimes. Alors entre ceux qui sont indemnes, ceux qui sont blessés légers, ceux qui sont blessés graves, éventuellement ceux qui sont décédés. Donc les blessés graves, il y a une équipe de l'hôpital le plus proche qui vient mettre en place un petit hôpital de campagne qui va permettre de stabiliser les victimes. C'est-à-dire, s'il y en a qui ont des hémorragies, par exemple, ils vont stopper les hémorragies. Et après, s'ils ont besoin forcément d'être opérés, ils vont devoir être évacués vers un bloc opératoire d'un hôpital le plus proche, ou en tout cas celui qui pourra les accueillir. Donc, quand il y a beaucoup de victimes comme ça, il y a plusieurs hôpitaux qui vont être mobilisés, puisque si on les stabilise ici, mais qu'après ils sont coincés devant le même bloc, il risque d'y avoir des personnes qui vont décéder parce qu'elles n'ont pas été prises en charge suffisamment rapidement. Donc là, tous les hôpitaux environnants vont être prévenus. Donc il y a la possibilité d'être évacué soit par des ambulances, soit par des hélicoptères. Donc en fonction du lieu où ils vont être évacués et de la rapidité avec laquelle ils devront être pris en charge. Ici, c'est les personnes qui auront pu être choquées par l'accident, qui ne sont pas nécessairement blessées physiquement, mais qui auront vu des choses pas très sympas. Ils auront besoin d'en parler pour ne pas garder ça pour eux et y repenser toutes les nuits, et tous les soirs, tous les jours, éventuellement pour qu'ils aient plus peur de monter dans un transport en commun ou tout ça. Donc là, ils vont être reçus par des psychologues des psychiatres qui vont leur poser des questions et qui vont leur permettre de dédramatiser un peu et de relativiser un peu ce qu'ils viennent de vivre. Donc là, ils sont pris en charge ici. En général, il y a avec eux la Croix-Rouge ou une association agréée de sécurité civile qui va les prendre en charge aussi pour leur donner à boire, à manger, un café, enfin des choses comme ça. Et ça va leur permettre de souffler un petit peu. Voilà pour l'organisation sur le terrain. Pour que tout ça marche bien, pour pas que chacun fasse à son idée, il faut organiser quelque chose. C'est-à-dire, là, on imagine un orchestre avec plein d'instruments. Si chacun décide de jouer et de partir à contre-temps, ça va être une vraie cacophonie. Il faut un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est le préfet. En l'occurrence, ici, la préfète en Ardèche. Donc, elle va avoir autour d'elle le chef des pompiers, le chef des policiers, le chef des médecins. Et dès qu'il y a besoin de prendre une décision ou d'organiser quelque chose, ça va se faire à ce niveau-là. Et c'est ici qu'ils vont prendre les décisions. Par exemple, s'il y a plusieurs hélicoptères qui doivent venir, il faut qu'ils puissent parler entre eux pour pas qu'ils se rentrent dedans, quoi. Par exemple, s'il y a des déviations, comme disait Amélie, qui doivent être mises en place, c'est ici qu'elles vont être décidées. Si, par exemple, cet accident, il bloque la sortie de votre collège, il va falloir que vous restiez peut-être plus tard au collège. Donc il faudra prévenir le chef d'établissement, il faudra prévenir les transports scolaires, il faudra prévenir les parents, et tout ça, ça va être coordonné ici. Ici, il va y avoir un représentant de l'éducation nationale aussi, qui va pouvoir faire le lien avec le chef d'établissement de votre collège. Et du coup, c'est ici, en fait, que tout est décidé.
Il y a une cellule aussi importante qui est présente dans cette réunion, c'est la communication. Parce que donc si, typiquement pour cette situation, il y a une déviation qui est mise en place, il est important de le faire savoir et donc de donner l'information à la presse, par exemple, ici Dromardèche, Dauphiné Libéré, ou sur les réseaux sociaux. On utilise les 4 comptes de la préfecture sur Instagram, Twitter, X, Facebook et LinkedIn pour donner des informations et des consignes aux habitants en cas d'événement majeur. Ça peut être aussi des informations de prévention pour des crises qui sont annoncées, enfin qui peuvent potentiellement être annoncées. Par exemple, là, ces derniers jours, on était en vigilance vent. Il y a aussi des vigilances crues. Et donc, à chaque fois, il y a des rappels, des bons comportements à adopter pour éviter que les gens se mettent en danger, que l'on communique soit via la presse, soit via les réseaux sociaux. Donc, c'est important. C'est le canal sur les réseaux sociaux de la préfecture. Ce sont les informations officielles qu'il est important de suivre pour être tenu au courant des bons comportements à adopter. Il y a aussi, cette cellule de communication sert à répondre aux questions des journalistes. Il y a beaucoup de journalistes dans une situation d'ampleur qui cherchent à avoir un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé, combien de moyens sont engagés, combien de victimes il y a. Et donc, pour éviter que chacun donne des bouts d'informations, toutes les informations sont centralisées aussi au niveau de cette cellule et sont délivrées une fois qu'elles ont été vérifiées et qu'elles sont conformes aux médias et comme je vous le disais, aux habitants via les réseaux sociaux. On a parlé des différents risques de crise qu'il peut y avoir. Oui, c'est ça. Hein. Est-ce que vous avez une idée des différentes crises ou des différents événements majeurs qui peuvent se produire en Ardèche et pour lesquels on se prépare, les services de la préfecture et des autres opérateurs se préparent et anticipent? Oui, par exemple,
la noyade, par la rivière, les ouragans, mais non. Comment ça s'appelle? Les rochers qui tombent.
Les éboulements?
Oui, les éboulements,
ouais.
Les trucs de neige.
Ouais, les épisodes de neige qui bloquent les routes, par exemple.
Et les inondations, les crashs de véhicules et tout ça.
Ouais. Il y a des incendies aussi qui peuvent intervenir en Ardèche. Donc il y a des phénomènes qui sont liés au climat, vous avez raison. La canicule, les épisodes de neige, les crues, etc. Et puis il y a des événements technologiques, mais Didier est plus spécialiste que moi sur ces...
Donc sur les autres types de risques, ça c'est des risques naturels que vous venez de citer, c'est ceux auxquels on pense le plus normalement. Mais après on a aussi des risques technologiques. En Ardèche notamment, on a des centrales nucléaires Donc on en a une à Cruas, il y en a une à Tricastin aussi qui est dans la Drôme mais qui vient impacter des communes qui sont en Ardèche. Et on en a une autre centrale qui est dans le Nord-Isère et qui, si jamais il devait y avoir un accident, pourrait avoir des conséquences jusqu'à Annonay par exemple. Donc ça concerne quand même beaucoup d'habitants ardéchois. Donc c'est autour de ces centrales-là, il y a des mesures qui sont prise en amont, une organisation qui est prévue pour s'il faut mettre les gens à l'abri, s'il faut les évacuer, s'ils ont besoin de prendre des comprimés d'iode éventuellement pour lutter contre les effets d'un nuage d'iode radioactif. Donc tout ça, c'est prévu, c'est anticipé et c'est organisé. On fait des exercices pour tester l'organisation entre les différents acteurs qui sont impliqués par une crise technologique nucléaire. On a aussi un barrage à Villefort qui retient une quantité assez phénoménale d'eau. Si jamais il vient à se casser, il y a une vague de 30 mètres de haut qui commence à déferler dans la vallée du Chazac. Et bon, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour les populations. Donc là, dans ces communes-là, les maires sont aussi conscients de ce type de risque et savent quelles sont les maisons qui pourraient être inondées en cas de rupture de barrage. Donc là aussi, on s'organise, on fait des exercices pour pouvoir prévenir les populations et éviter de se retrouver dans une situation compliquée. Mais si jamais ça doit arriver, il faut quand même se préparer à l'événement. Et pour préparer ça, il y a aussi la préparation d'un sac et d'un kit d'urgence qu'on va vous demander maintenant d'essayer de constituer.
Je ne sais pas ce qu'ils ont demandé aussi par la télé ou quoi, d'avoir toujours un kit sur soi. Il n'y a pas si longtemps.
Alors effectivement, il faut qu'on puisse avoir chez soi ou facilement en portable des éléments importants qui vont nous aider à passer les premières heures en attendant peut-être l'arrivée des secours, etc. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire, d'imaginer que vous êtes bloqué chez vous parce qu'il y a une coupure d'électricité ou il y a un phénomène neigeux important qui fait que vous ne pouvez pas partir de chez vous pendant plusieurs heures, voire un ou deux jours. Donc selon vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir passer ces moments là en sécurité chez vous et dans la perspective de l'arrivée des secours qui peuvent mettre peut-être des fois 24 heures, 48 heures. Essayez de compléter avec les objets là que vous avez sous la main ce sac, sachant qu'il y a, je vous donne un petit indice, il y a 14 objets que vous pouvez emporter avec vous. Approchez-vous. Ouais, mettez-vous tous les deux ici. Les filles, mettez-vous là. Alors, allez-y, bien sûr, commencez. Alors, selon vous, de quoi vous auriez besoin en cas de coupure d'électricité, d'épisode neigeux? Ça s'appelle le kit d'urgence. Hein.
De l'eau.
Des outils de base. Un sac de couchage.
Ouais. Des médicaments en cas de blessure ou de tout ça.
S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage, on prend les vêtements.
Ouais. Les papiers pour... Ça, je l'ai vu dans le truc. On prend une tente, on prend quand même une tente, on sait jamais.
Une lampe de poche.
Et je pense que après c'est
bon. Une brosse à dents, peut-être.
Après une brosse à dents, c'est pas très évident, il y en a qui se lavent pas les dents alors.
Est-ce que c'est indispensable à ta survie pendant deux jours?
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour faire à manger. Et après le mieux c'est la radio à pile.
Ah, bah alors, il faut la mettre.
Et ouais. Et après, je pense que c'est bon.
Plus d'électricité, plus internet, comment on est au courant des choses? Comment on peut entendre l'évolution de la situation par la radio? Ouais.
Bah, je te laisse prendre un des trucs.
C'est bon?
Des jeux.
Ouais,
tu penses que t'as réussi? Ouais. Allez, on va faire la correction. Le kit d'urgence qui est recommandé de 72 heures. Donc, c'est ce que je disais, en cas de coupure d'électricité, de gaz, d'eau courante, les routes impraticables lorsqu'une catastrophe majeure survient. Les premières 72 heures sont souvent les plus éprouvantes et ce kit préparé à l'avance vous permettra de rester chez vous le plus sereinement possible dans l'attente des secours. Il vous sera aussi très utile dans le cas d'un déplacement précipité. Et donc, vous avez raison, il faut une radio à pile parce que s'il y a coupure d'électricité et qu'on n'a pas accès à l'information, c'est important. Des médicaments de base, trousse de premier secours avec des pansements, des compresses, les outils de base, de la nourriture non périssable, des vêtements chauds et une couverture de survie, lampe de poche avec des piles et des piles de rechange, ou alors des bougies, des briquets, des allumettes, parce que c'est ce qu'on se disait, si on reste dans le noir à cause de la coupure d'électricité, ça peut être problématique. Des chargeurs pour les téléphones, de l'argent liquide parce que les distributeurs ne peuvent ne plus fonctionner à un moment ou à un autre. de l'eau potable en quantité suffisante pour sa famille. Si on est 3, 4, c'est pas pareil que si on est seul. Donc il faut 6 litres d'eau par personne en bouteille. Les doubles des clés de la maison et de la voiture. Les jeux, c'est ce qu'on se disait, hein, pour occuper le temps, pour pas devenir fou, pour les jeunes enfants, les occuper, éviter qu'ils s'impatientent. Les lunettes, c'est la paire de secours, en fait, pour ceux qui sont... c'est pas obligatoire si t'as pas besoin de lunettes de vue, mais c'est important. Ceux qui ont des lentilles aussi, parfois, qui doivent les changer tous les jours, il faut qu'ils aient leur paire de secours de lunettes dans le kit d'urgence. Et puis, les photocopies des documents qui sont importants, qui doivent être dans des pochettes étanches, donc les cartes d'identité, ordonnances, etc.
Moi, je pense que c'est des trucs qui servent un peu à rien. Genre, par exemple... Ça dépend dans quelles circonstances. Par exemple, si par exemple on imagine c'est une apocalypse zombie, tu vas par exemple prendre tes clés ou de l'argent, t'en auras pas besoin. Ou même un chargeur. Un chargeur, je peux en trouver partout, tu vois, dans un magasin.
En fait, ça dépend. Je suis d'accord, tout dépend de la situation. Mais là, voilà, c'est le kit de base qui répond la plupart du temps aux situations que l'on peut rencontrer. Quand même, qui reste des situations exceptionnelles, hein, mais qui sont les plus probables ici actuellement. Voilà. Bon, vous avez appris des choses, c'était...
Moi, je savais déjà, je l'ai su. Bah.
Ouais, très bien.
À part ça, là-bas.
Ouais, le fait qu'il y a un service à la préfecture, enfin même la préfecture qui pilote les crises. C'était intéressant ?
Ça va.
Ça va.
Et la question, du coup, est-ce que vous allez en préparer un sac ?
Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais voir, peut-être.
Moi, non.
Non.
D'électricité.
Non.
Ah oui, le problème, c'est que tu ne sais pas à l'avance, donc c'est là l'intérêt, c'est de se préparer, en fait, au cas où ça arrive.
S'il me prévient que ça va arriver dans les prochains jours, là, je fais.
Souvent, les crises, elles ne préviennent pas, mais...
Savoir quoi préparer, déjà, c'est bien, parce que au moins, comme tu dis, si jamais ça arrive dans quelques heures, au moins, ça permet de se dire, il faut que je pense à prendre les doubles des clés, il faut que je pense à prendre les papiers importants, les ordonnances, éventuellement, s'il y a besoin de prendre des cachets. Et puis de l'eau, et puis de la nourriture et des jeux. Enfin voilà, c'est l'idée aussi, c'est de savoir quoi prendre et pas s'encombrer d'inutiles. Et pas après, une fois qu'on est parti, se dire si j'avais su, j'aurais pris une radio.
Très bien.
Placée sous le thème de l'engagement pour les autres, cette journée leur a permis de découvrir les multiples formes que peut prendre l'engagement citoyen en tant qu'acteur de la sécurité et de la défense. Sur le stand de la préfecture, le rôle et les missions de la préfète de l'Ardèche ont été présentés en particulier en matière de gestion de crise à travers des mises en situation interactives.